Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue. Nous allons une nouvelle fois vous proposer un résumé de 7 jours d'actualité avec la richesse des reportages de la rédaction. Nous partirons pour la Syrie, la Turquie, l'Éthiopie ou bien encore le Togo. Nous allons une nouvelle fois parler football dans ce numéro sur fond bien sûr de Coupe du Monde. Notre invité Robert Redeker, il est philosophe et il vient d'écrire « Peut-on encore aimer le football ?» Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez aussi retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Bonjour Robert Redeker.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. On avait fait dans UD une émission ensemble, ça remonte déjà à quelques années, autour de votre livre qui s'intitule « L'emprise sportive », publié chez François Bourin. C'était en 2012, déjà
exact,
le sport.
Oui.
Déjà le sport. Et là, on va parler du football plus précisément. Alors, mettons d'abord les choses au point. Vous êtes un amateur de football. Hein, vous aimez le
sinon,
football.
Sinon, je n'aurais pas écrit ce genre de livre. D'ailleurs, de façon récurrente. Je crois que la première fois où j'ai écrit sur le sport en général et le football plus particulièrement, c'était en 2000 dans le sport contre les peuples. Donc, oui. Si on n'aime pas quelque chose, on ne revient pas dessus de façon récurrente pendant 20 ans.
Alors, les choses sont dites, on va pas faire le procès du... Nous aimons tous les deux le football, donc on va pas faire le procès, mais on va être critique quand même, allez-y.
Oui, je vais... Peut-être le verbe « aimer » n'est pas tout à fait le bon verbe, puisque il faut quelqu'un qui réponde quand on aime, et je dirais passionné. Passionné par le football, plutôt qu'amoureux du football. Passionné, qu'est-ce que ça veut dire ? La passion, c'est l'affect. L'affect vécu en commun avec d'autres. Donc je suis plutôt passionné par le football qu'amant du football.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous ont écrit cette semaine, parce qu'en plus le football intéresse énormément d'auditeurs. Crésus, par exemple, nous écrit en nous disant « Le football est le sport le plus suivi et adoré au monde parce qu'il nous rassemble malgré nos différences. » Madagno, lui, nous dit « Bonjour. » Il dit « Pour moi, la question est « Peut-on ne pas aimer le football ?»
Alors, peut-on ne pas aimer le football? Beaucoup de gens n'aiment pas le football. D'abord, n'aiment pas le jeu, c'est pas mon cas. N'aiment pas, là je suis assez souvent d'accord, n'aiment pas l'environnement du football, c'est-à-dire le football devenu, nous en reparlerons sans doute, devenu une industrie et support pour la publicité et même véhiculant une certaine idéologie politique, économique. Bon, là, je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer le football pour ça. Et puis, il y a le côté esthétique. On peut ne pas aimer voir des gens en short courir après un ballon. On peut trouver que c'est trop violent. Voilà. Donc, on peut ne pas l'aimer. Alors, c'est ce qui nous rassemble. Donc, nous vivons des affections en commun. Je trouve cela très beau. Mais, en même temps, on peut dire que cette façon de vivre des affections en commun peut aussi créer du conformisme. Donc on va balancer entre les deux la fraternité d'un côté et le conformisme de l'autre côté. On se souvient de Georges Brassens, quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. Voilà. Donc je crois qu'il faut, tenir tous les côtés ensemble d'une façon un peu dialectique, sans pour autant monter sur une colline, regarder l'ensemble comme un général regarde son armée et avoir un point de vue trop de surplomb. Voilà. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est d'être dedans, en empathie et en même temps de faire un pas de côté.
Alors nous allons parler de l'actualité internationale, de l'actualité française aussi, l'actualité africaine, et on va évidemment parler football. Un dernier message, enfin avant d'autres dans l'émission, celui de Sitas Sidibé qui nous a écrit lui aussi. Il dit « Moi j'aime le football et je continuerai de l'aimer pour toujours », dit-il. Alors, football justement, Robert Redeker, écoutons ceci. Les propos de Joachim Löw, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, après son élimination au coup de tonnerre, comme on dit, dès le premier tour, mercredi, à la suite de sa défaite contre la Corée du Sud.
Eh bien, c'est vraiment difficile. Nous sommes très déçus d'être éliminés. Tout d'abord, nous devons féliciter nos deux concurrents qui sont parvenus à sortir de ce groupe. Nous ne méritions pas de le faire cette année. Nous ne méritions pas de conserver notre couronne. Nous voilà dehors. Ce n'est pas un problème de motivation. Vous l'avez vu en seconde période. Mais dans cette Coupe du Monde, nous n'avons jamais inscrit le premier but. Il a toujours fallu courir après le score. Aujourd'hui, nous avons pris tous les risques, mais l'équipe a manqué d'aisance, de qualités individuelles et de vivacité dans les derniers mètres. Résultat, notre élimination est méritée.
Fair play et lucidité, Robert Decker.
Esprit sportif, qui est quelque chose qui se perd, surtout dans le professionnalisme. Je dirais presque esprit rugby, esprit fair play, reconnaître le... C'est facile de reconnaître le talent de l'autre lorsqu'on a gagné. On félicite l'adversaire quand on a gagné. Je crois que c'est beaucoup plus difficile et ça mérite un coup de chapeau parce que
et vous faites le geste parce que vous êtes venu avec un magnifique
stade. Parce que c'est la classe de reconnaître la valeur de l'autre quand on a perdu alors qu'on était favori et tenant du titre.
Ouais. Alors vous écrivez, venons-en à votre ouvrage « Peut-on encore aimer le football ?» publié aux éditions du Rocher, Robert Adecker. Vous écrivez « La place du football dans l'existence collective est l'un des phénomènes les plus étonnants du monde moderne. Le football est le chiffre du monde social contemporain, la clé qui permet le disséquer. » Et vous ajoutez, d'ailleurs c'est votre livre, que le football est une fable. Il permet de nous comprendre en quelque sorte.
Oui, c'est le contraire du... Alors certains médias font de la storytelling avec les joueurs de football, ce qui est une façon au fond d'enfumer les lecteurs ou les spectateurs en créant une idolâtrie ou des idoles de pacotille, ne montrer que le côté positif. Mais une fable, on peut se référer à La Fontaine, c'est une sorte de métaphore du monde. Dans un match de football, l'on peut, si l'on regarde métaphoriquement, l'on peut rencontrer ce que c'est que l'homme, ce que c'est que le cosmos, ce que c'est que la société, et avec l'univers économique du football, le libéralisme triomphant dans le monde d'aujourd'hui.
Ah justement, je voulais vous citer une nouvelle fois, vous écrivez « Le football a réussi la transformation des joueurs, autrement dit d'hommes, en capitaux spéculatifs, voyageurs et éthérés ».
C'est l'un des aspects les plus sinistres du football aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il y en a deux vraiment sinistres. On pourrait revenir sur la question du mercato, qui pose de vrais problèmes.
On va y revenir. C'est-à-dire le mercato, c'est-à-dire le changement incessant de joueurs au sein des équipes.
Voilà. Ouais. Qui pose des problèmes moraux et philosophiques, puisqu'on vend et achète des êtres humains. Du moins, on utilise le vocabulaire de la vente. Et ce que vous venez de citer, en effet, la valeur des joueurs est quelque chose, on spécule sur les joueurs, donc quelque chose qui ressemble aux actions en bourse, qui montent et qui descendent. Et alors, la spéculation fait que ce n'est pas uniquement la valeur sportive du joueur qui est en jeu, mais il y a tout un côté, le joueur aujourd'hui doit être aussi un showman, savoir faire de la communication, souvent être dans le politiquement correct.
La langue de bois.
Voilà, langue de bois. Les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui qui défilent devant les journalistes pour les conférences de presse.
Sur fond de panneaux publicitaires.
De panneaux publicitaires. Récitent des éléments de langage un peu comme les politiciens. Qui ont été dictés par d'autres, ça c'est langue de bois. Et la valeur du spéculatif du joueur est liée à tous ces aspects extra-sportifs. On peut trouver cela interrogeable et dommage.
Il y a un autre auditeur, Robert Decker, qui nous écrit, il s'appelle Hippolyte. Lui nous attire notre attention sur les droits de retransmission télévisée, les droits télé. Il dit le foot coûte de plus en plus cher et je veux parler des droits de télévision.
Oui, alors il a bien...
D'ailleurs, qui enferme certains auditeurs dans l'obligation de s'abonner à des chaînes à péage.
Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. On parle de la popularité du football, mais c'est une popularité à laquelle tout le monde n'a pas accès. Alors, dans nos pays développés, occidentaux, l'abonnement à des chaînes à péage peut être quelque chose d'assez développé, mais dans beaucoup de pays, c'est parfaitement impossible pour 95% de la population. Donc c'est à la fois populaire et retiré. Ou alors, il faut payer, mais c'est loin d'être à la portée de tout le monde. Et vous voyez, quand on dit le football sport le plus la Coupe du Monde, spectacle le plus populaire de la planète, c'est quelque chose... il faut réfléchir sur le sens du mot populaire quand on l'emploie dans un pareil contexte. C'est populaire... mais pas pour tout le monde. C'est curieux.
En quelque sorte, oui. Ouais,
oui. Ouais.
Sept jours dans le monde.
Alors nous allons en quelque sorte mettre le ballon rond entre parenthèses pendant quelques secondes, quelques minutes, Robert Redeker. Pendant ce temps-là, je veux dire, pendant la Coupe du Monde, l'armée russe soutient toujours la reconquête de la Syrie par Bachar al-Assad. À Beyrouth, correspondance régionale de Paul Ralifé, jeudi.
Au 10e jour de son offensive dans le sud du pays, l'armée syrienne a poursuivi sa progression au nord-est de la province de Daraa. Combinant les raids aériens, les pilonnages à l'artillerie et les assauts au sol, les troupes gouvernementales ont opéré une percée importante et sont parvenues à prendre plusieurs collines stratégiques. Un scénario déjà vu dans la route orientale de Damas est mis en œuvre à Daraa. Après avoir encerclé une localité, l'armée ouvre des corridors sécurisés pour permettre aux civils qui le souhaitent de sortir. Les troupes gouvernementales s'emploient ensuite à couper les lignes de ravitaillement des rebelles et des djihadistes avant l'assaut final. 50 000 civils auraient ainsi fui les zones de combat, selon les Nations Unies. 750 000 personnes vivent dans cette province limitrophe à la Jordanie. Devant l'intensité des combats, l'ONU a annoncé ce jeudi avoir suspendu ses convois humanitaires transfrontaliers depuis la Jordanie vers Daraa. Un responsable onusien a justifié cette décision par l'absence d'accord suffisant pour garantir un passage sûr. L'objectif de l'armée syrienne est de reprendre le contrôle de la frontière avec la Jordanie, qui échappe au contrôle du gouvernement depuis 2015. 40 000 soldats ont été mobilisés pour cette offensive. Devant la puissance de feu déployée, les rebelles reculent et des centaines de combattants se seraient rendus.
Revenons maintenant, Robert Redeker, sur la victoire au premier tour de Recep Tayyip Erdogan à l'élection présidentielle turque dimanche dernier, alors que certains observateurs imaginaient une seconde manche. À Istanbul, correspondance au lendemain du scrutin d'Alexandre Billette.
Des milliers de personnes qui se sont rassemblées devant le siège du parti à Istanbul et Ankara dans une ambiance très festive, qui ont fait la fête jusque tard dans la nuit, des sympathisants souvent en famille avec des portraits géants de Recep Tayyip Erdogan et des drapeaux turcs qui chantaient Allahu Akbar et qui scandaient le nom du président. Côté réaction, le président, lui, a tenu deux discours cette nuit. Il a parlé de fête de la démocratie. Il a rappelé à plusieurs reprises que près de 90% des électeurs avaient voté hier. Il en a profité pour tacler les vieilles démocraties occidentales où l'on vote beaucoup moins. Et ce matin, la presse qui est essentiellement pro-gouvernementale se réjouit de cette victoire du peuple, comme le dit un quotidien. Cette victoire historique, dit un autre, la révolution du 24 juin pour le quotidien islamo-nationaliste Yeni Shafak, qui titre « Et c'est reparti », peut-être un cri de soulagement après une campagne qui a été quand même beaucoup plus difficile que prévu pour Recep Tayyip Erdogan.
Avant de reparler football, Robert Redeker, revenons maintenant sur la conférence humanitaire sur le Yémen qui s'est tenue mercredi à Paris. Une conférence aux ambitions pour le moins très limitées, Muriel Paradon.
La conférence humanitaire sur le Yémen avait été annoncée lors de la visite en grande pompe du prince héritier d'Arabie Saoudite à Paris en avril. Deux mois plus tard, cette conférence se retrouve réduite à une réunion d'experts à huis clos. La France explique qu'elle doit tenir compte des récents développements sur le terrain, autrement dit l'offensive sur Hodeïda qui a démarré le 13 juin. L'Arabie Saoudite, qui a pris la tête d'une coalition soutenant les forces gouvernementales yéménites, participe à cette offensive contre les rebelles houthis avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la population civile. Comment ce belligérant peut-il à la fois combattre sur le terrain et co-organiser une conférence humanitaire? C'est la question que pose un ensemble d'ONG. Quelle crédibilité également pour la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite? Les ONG devaient être consultées avant la conférence sur le Yémen, mais elles ont refusé, ne voulant pas servir de caution. Les autorités françaises, embarrassées, ont finalement décidé d'organiser une réunion à minima, avant peut-être une autre réunion plus conséquente.
À noter aussi cette semaine en Iran un appel à l'unité nationale lancé par le président Hassan Rouhani au deuxième jour d'un mouvement de grève au Grand Bazar de Téhéran. Je vous rappelle aussi que les 28 dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord dans la nuit de jeudi à vendredi au petit matin sur les migrations lors d'un sommet tendu à Bruxelles que l'Italie menaçait de faire capoter faute d'engagement précis de ses partenaires européens concernant l'accueil des migrants, à suivre évidemment dans nos journaux. Retour à notre émission sur le football avec Robert Decker qui vient d'écrire « Peut-on encore aimer le football ?» Mais on va faire un petit détour par la Turquie, pays de football. Également, vous vouliez dire quelque chose, ajouter un commentaire sur la victoire d'Erdogan.
Voilà, petit détour qui a quelque chose à voir avec le football. Alors, on peut rapprocher Erdogan de Poutine dans la construction de démocratie post-démocratique et pour reprendre un vocabulaire qui était celui de Pinochet, c'est plutôt que de démocrature, il faut leur parler de démocratie totalitaire et c'est ce vers quoi les deux semblent hélas se diriger. Et dans les deux, il y a finalement l'utilisation du football. Alors avec Poutine, on le voit très très bien. Bon, ça permet plus ou moins de mettre au second plan ce que fait la Russie en Syrie et d'étouffer l'opposition en Russie même. Et Erdogan emploie le vocabulaire du football pour attaquer ce qu'il appelle les vieilles démocraties, c'est-à-dire les démocraties qui ne sont pas encore les démocraties totalitaires. Vous avez noté le mot « tacler ». Donc oui, c'est oui. D'un côté l'utilisation du football du côté de Poutine et l'utilisation des métaphores footballistiques pour faire passer un message, alors je vais pas dire antidémocratique, mais post-démocratique. Alors c'est une situation, ça ne veut pas dire qu'ils vont historiquement triompher, parce que c'est une situation que l'on a déjà connue, il y a un type de critique de la démocratie que l'on a déjà connue dans les années 30. Ça ressemble un petit peu également au fascisme, cette histoire, et à la montée des fascismes.
Ah, vous écrivez dans ce livre, peut-on encore aimer le football, vous écrivez que le foot remplit, là je vous cite, le foot remplit de vacuité le vide de l'existence démocratique.
Oui. Bon, la critique que l'on fait de la démocratie, ce n'est pas du tout la même que celle d'Erdogan ou de Poutine. C'est une critique qui est basée sur le refus du fétichisme de la marchandise, par exemple, expression qui remonte à Marx, ou bien sur qui est basée sur les travaux de Baudrillard ou de Debord, les choses comme ça. Il est évident que la démocratie mercantile finit par ôter le sentiment du sens de l'existence aux êtres humains, ouais. et par vider les êtres humains de l'intérieur. Voilà le danger de la démocratie, c'est un danger pour l'esprit, c'est-à-dire un danger spirituel, d'effondrement spirituel qui a été noté par de nombreux auteurs. Et le football joue un certain rôle.
Là, vous dites que c'est le pouvoir spirituel moderne, le football.
Oui. C'est en effet le pouvoir spirituel moderne qui se substitue à ce qu'ont été les pouvoirs spirituels dans l'histoire, qui étaient religieux et politiques. Le pouvoir spirituel, c'est la direction des âmes. La direction des âmes à partir d'une idéologie, et il ne peut pas y avoir d'existence humaine sans pouvoir spirituel. Alors, cette direction des âmes, quel est le message souvent du spectacle du football? Bon, c'est... voilà comment vous, les humains, les hommes d'aujourd'hui, vous devez sentir votre existence. Vous devez être performant, vous devez être dans la compétition, vous devez chercher à être les meilleurs. Bon, et c'est cela le pouvoir spirituel, une sorte de catéchisme qui, au lieu de nous dire, comme souvent dans les religions, aimez-vous les uns les autres, ou bien aimez Dieu, ou c'est l'amour qui est le plus important, qui nous dit, non, c'est la lutte et la compétition, c'est-à-dire quelque chose de nietzschéen, la lutte et la compétition qui est le plus... C'est le pouvoir spirituel, au fond.
Ouais, la loi du plus fort, du surhomme, le culte du surhomme, en quelque sorte. Vous vous intéressez beaucoup aux questions d'éducation, vous avez écrit un livre récemment, et vous écrivez dans ce livre là sur le football, parce que le football, c'est pas simplement... on en a parlé la semaine dernière avec Michael Correa, c'est pas simplement le foot business, c'est aussi les écoles de football tous les mercredis où les gamins vont jouer au football. Et vous écrivez, éduquer, ce n'est pas éduquer à devenir le meilleur, c'est éduquer à devenir meilleur humainement, un homme meilleur, plus noble, plus courageux, plus généreux, plus désintéressé, plus gratuit, bref, un meilleur homme, bref, une femme meilleure.
Voilà.
Ça, c'est un contre-courant, un petit peu, quand même, du foot business, même, franchement.
C'est que dans notre société, le sens du mot meilleur a changé. Lorsque le président de la République dit aux Français il faut devenir meilleur, ça veut dire il faut devenir plus sportif, plus compétitif, plus performant, alors que traditionnellement, il faut devenir meilleur, c'est devenir meilleur moralement, devenir meilleur humainement, et grandir intérieurement. Là, il y a un changement de vocabulaire qui est, à mon avis, la marque d'un changement négatif, il me semble, dans les sociétés. Voilà. D'où la question de l'éducation. Souvent aujourd'hui, les parents et même l'école pensent que éduquer, c'est faire en sorte que mon enfant devienne le meilleur. Voilà. Or, il me semble que le sens de l'éducation, c'est pas ça. Le sens de l'éducation, c'est faire que l'enfant fera un homme plus généreux, plus fraternel, plus avec l'âme, plus élevé. C'est ça, éduquer.
Bien
nous
sûr.
L'oublions.
Mais les éducateurs de football, revenons au football, ceux qui sont avec les gamins, là j'y reviens toutes les semaines, et qui leur apprennent à jouer au foot, ont une tâche ardue, parce que ils doivent inculquer certaines valeurs, alors que le contexte du foot n'est plus du tout à l'existence de ces valeurs, justement.
Oui, nous ne sommes plus dans le foot des années 50 ou même 70.
Que vous décrivez avec beaucoup de nostalgie dans ce livre,
oui,
d'ailleurs.
Oui, je l'ai connu. Oui. Bon, le contexte du foot, c'est gagner le plus d'argent possible. C'est ce qu'a dit, ça m'a terrifié lorsque j'ai entendu Emmanuel Macron un jour dire je voudrais que des jeunes Français cherchent à devenir milliardaires. Voilà, c'est terrifiant. Et ils peuvent le devenir par le foot. D'où son idée, la France doit devenir une nation sportive. C'est terrifiant également, cette chose-là. Bon, et les éducateurs à la base dans les clubs de foot ont affaire, alors, d'une part à cette idéologie politique, économico-politique du foot, et d'autre part à l'imaginaire médiatique et publicitaire du football qui imprègne les enfants, qui est fait à partir des vedettes, et qui est cette histoire-là. Le foot, c'est une affaire pour devenir milliardaire et pour être le meilleur. Non, c'est le foot, c'est une affaire pour vivre la rivalité dans la fraternité, et la fraternité dans la rivalité, c'est ça.
Avec cette notion collective.
Avec cette notion collective dont nous pourrons reparler.
Une semaine d'actualité.
Avec quelques images sonores pour évoquer l'actualité française avec trois sujets, Robert Redeker ce samedi. D'abord la visite au Vatican d'Emmanuel Macron, justement, qui a été reçue par le pape François Valéry Gaz.
Emmanuel Macron l'a confirmé à Rome, il a bien rencontré lundi soir Giuseppe Conte pour un dîner privé organisé, a-t-il dit, à la demande du président du Conseil italien. Ce rendez-vous n'aurait pas dû avoir lieu car une visite au Vatican n'est jamais couplée avec une visite aux autorités italiennes. Le protocole a malgré tout été respecté puisque la rencontre n'a pas eu de caractère officiel et l'actualité de la crise européenne sur la question des migrants l'a rendue particulièrement pertinente à deux jours du Conseil européen. La question des migrants a été aussi abordée lors de l'entretien entre Emmanuel Macron et le pape François, qui a duré 57 minutes, presque un record, et qui s'est terminé en montrant une grande convivialité entre le souverain pontife et le président français. Emmanuel Macron a salué la qualité de leur dialogue, empreint, je cite, d'humilité et sans rapport de force. Un dialogue qui les a amenés à évoquer aussi les sujets qui fâchent, dit Emmanuel Macron, bioéthique ou laïcité. La laïcité qui, pour certains, Paris aurait dû inciter Emmanuel Macron à ne pas aller prendre possession du titre honorifique de chanoine de Latran qui revient à tous les chefs d'État français depuis Henri IV. Mais Emmanuel Macron a assumé son choix et a redit l'importance qu'il accordait au lien historique entre l'État français et le Vatican.
Autre sujet en France, Robert Decker, le projet présenté en Conseil des ministres d'un service national d'un mois pour les jeunes français aux alentours de l'âge de 16 ans, Bruno Faure.
Un service national et non un service militaire. C'est le message envoyé par l'exécutif, bien conscient du risque politique. Parmi les propositions du groupe de travail mandaté par l'Élysée, un service d'un mois obligatoire entre 15 et 18 ans, puis une phase facultative d'engagement citoyen avant 25 ans. Emmanuel Macron, qui en a fait une promesse de campagne, souhaite que chaque Français, quel que soit son sexe, ait une expérience, même brève, de la vie militaire au service du social, de l'environnement ou de la culture. Pas de treillis, pas d'apprentissage du garde-à-vous, mais une façon de revenir sur la décision de Jacques Chirac en 1997, la suppression pure et simple de ce rite de passage, de ce monument républicain héritier de la Révolution. Jusqu'où iront l'Élysée et Matignon? Avant une mise en place à partir de l'an prochain, une période de consultation doit débuter à l'automne avec les jeunes, les parents, les enseignants, les collectivités sur Internet et physiquement dans les territoires. Les organisations de jeunesse dénoncent déjà incohérence, logique démagogique. Le rapport rédigé par 5 inspections générales avait lui-même alerté sur les contraintes, la complexité et le coût de cette mesure, plusieurs milliards d'euros chaque année.
Alors revenons au football, à la Coupe du Monde, Robert Decker, à la Coupe du Monde côté français. Équipe de France qui, avec le Danemark mardi, a livré à ce jour le plus mauvais match de la compétition. Faut-il croire à sa victoire tout à l'heure, cet après-midi, contre l'Argentine de Messi en 8e de finale? Les supporters croisent les doigts, vous aussi peut-être, à Moscou, Antoine Grenier.
3 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 buts marqués, 1 seul encaissé pour une première place finale dans ce groupe C. Réduit aux chiffres, le bilan de l'équipe de France paraît satisfaisant. Mais le manque de maîtrise parfois affiché par les Bleus et leurs difficultés en attaque continuent d'inquiéter alors que se dressera l'Argentine de Messi samedi en 8e face à eux. Un vrai tournant, assure Didier Deschamps.
Il y a une deuxième compétition qui va commencer. Les 8e, c'est élimination directe. On est venu ici avec beaucoup d'ambition, ça a été difficile pour nous, mais on finit premier de notre groupe, dans un groupe malgré tout pas facile. Évidemment qu'il y a la montagne qui va se présenter, mais on est là.
Des Argentins qualifiés in extremis dans leur groupe D, qui affronteront des Français parfois trop tranquilles dans leur poule. Olivier Giroud, l'attaquant des Bleus, fait appel au mental de ses coéquipiers.
Contre le Pérou, il y avait de très bonnes choses. Contre le Danemark aujourd'hui, c'était moins bien. Mais c'est vrai qu'il faudrait avoir un peu plus de consistance, je dirais, de régularité dans nos performances. C'est ça aussi qui fait les grandes équipes. Il va falloir peut-être se lâcher un peu plus.
Il y a 40 ans, l'Argentine avait battu la France 2-1. C'est la dernière fois que les deux nations se sont croisées dans un mondial. Les Bleus qui ont perdu leurs 2 confrontations contre l'Albicéleste en Coupe du Monde.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Robert Decker qui vient d'écrire « Peut-on encore aimer le football ?» un essai publié aux éditions du Rocher. Vous y croyez aux chances de la France tout à l'heure ?
Non. Je me souviens de ma jeunesse. C'est le chevalier inexistant, Italo Calvino, hein, ce roman. Et bien, c'était une armure qui n'était pas habitée. C'était l'armure du chevalier. Dedans, il n'y avait. Et je crois que l'équipe de France actuellement, avec Didier Deschamps en général, c'est le chevalier inexistant, c'est-à-dire une simple apparence, une équipe invisible, c'est du moins ce que nous avons vu.
C'est ce que dit votre ami Vincent Duluc de l'équipe qui a décrit le match en disant que c'était du néant entouré de vide.
Oui, c'est ça. Très excellente formule. À la limite, je crois que ce ne serait pas moral que cette équipe poursuive la compétition et son sort devrait être le même que celui de l'équipe d'Allemagne.
Il y a des auditeurs qui doivent se demander si vous êtes un bon français, Robert Redeker. L'heure est grave. Revenons-en à cet essai, à votre regard sur le football, regard intellectuel, parce que en plus vous écrivez, et ça j'ai beaucoup aimé, qu'on peut aussi lire beaucoup et jouer au football et aimer le football. Hein. Vous racontez un moment que quand vous étiez plus jeune, quand vous alliez au stade, vous arriviez toujours un peu en avance, donc vous lisiez dans le vestiaire en attendant vos camarades, par exemple.
Oui. De toute façon, le football a été très très lié à la littérature, comme d'autres sports, oui. Le cyclisme et le rugby. Le rugby ne l'est plus, il est bon. C'est un sport qui a disparu, mais le football est lié à l'écriture. Et je cite d'ailleurs des poèmes et des poètes brésiliens, dont Andrade, etc., qui ont écrit de très belles choses sur le football brésilien.
Alors, vous écrivez dans ce livre, fort intéressant, aujourd'hui, quand un jeune homme devient une vedette du football, quand il montre quelques dons exceptionnels pour ce sport, le système sportivo-médiatique le bascule séance tenante dans un autre monde et dans une autre vie, dans un monde et une vie parallèle.
Oui, c'est une...
À 18-19 ans, parfois.
À 18-19 ans, il y a une exfiltration ou une téléportation. Bon, organisé par le système football business,
ouais.
Voilà des jeunes gens qui ensuite ont de forts risques de perdre complètement la tête. Apparemment, ce n'est pas le cas de Mbappé, qui semble avoir la tête sur les épaules.
Qui est le plus jeune joueur de l'équipe, oui, de la compétition,
voilà,
d'ailleurs, à 19 ans.
Mais c'est peut-être arrivé à Martial, c'est arrivé à Anelka, qui perdent complètement de la tête, et qui sont envoyés dans une sorte d'au-delà ou de monde extraterrestre.
Et parfois, ils n'en reviennent jamais.
Voilà. Alors, là, il y a quand même une conséquence sur les spectateurs et les supporters. Pendant très longtemps, il était possible de s'identifier. C'est le phénomène de l'identification aux joueurs sur le terrain. Mais lorsque vous êtes téléporté dans un monde extraterrestre à 18 ans, et lorsqu'on sait qu'à 18 ans, vous avez 1 million d'euros par mois, des choses comme ça, on ne peut plus s'identifier. Et donc, cette chose-là, je crois, a transformé à la fois le football et le rapport entre les spectateurs et supporters et les joueurs.
Alors, venons-en, prenons un exemple, par exemple, de cette équipe de France, son plus grand joueur, Griezmann, son buteur, son meneur de jeu, je ne sais pas comment le qualifier, qui a suscité, qui est mauvais jusqu'à maintenant, dans la compétition, peut-être va-t-il se réveiller tout à l'heure, et qui a suscité quand même une polémique au début de la compétition. Et vous en parlez dans le livre. On voit plus Antoine Griezmann dans les publicités avant ou après le match, ou à la mi-temps. On a plus entendu parler de Griezmann dans un petit film qu'il s'est fait, qu'il a diffusé au début de la compétition pour dire que finalement il restait à l'Atlético de Madrid. Non seulement c'est la pub, mais c'est l'ego également.
Oui, alors il y a un décalage très étonnant. J'ai regardé les 3 matchs de l'équipe de France sur Bein et il y avait des pubs pour divers produits avec Griezmann, ouais, avant les matchs ou à la
mi-temps. Avec d'autres d'ailleurs aussi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et pendant le match. Les matchs, Griezmann était invisible, inexistant. C'est un étonnant décalage. Et on peut se dire qu'il y a peut-être un rapport entre l'affaiblissement du joueur et sa surcotation publicitaire. Voilà. Comme si, finalement, le publicitaire était plus important. J'espère qu'il va se réveiller tout à l'heure.
Oui, parce que c'est aussi fâcheux pour les publicitaires de mettre en avant un joueur qui n'existe pas sur le terrain, d'ailleurs.
L'histoire d'Adidas en 2002, qui avait distribué des publicités dans toute la France avec les joueurs 2 étoiles sur le maillot, et finalement la France a été éliminée au premier tour. Mais la question que vous posiez, c'était celle de l'ego. Ce que l'on peut reprocher au football moderne, c'est justement de promouvoir l'ego moderne, dire l'ego contemporain, centré sur lui-même, de plus en plus individualiste, et qui imagine finalement que l'alpha et l'oméga de l'existence, c'est la puissance et le rayonnement de cet ego. Voilà. Donc, ce football spectacle, c'est aussi une publicité permanente pour une certaine conception du moi humain, de l'ego humain. Et ce que l'on nous donne à adorer, puisque adorer est un mot qui a été employé tout à l'heure, ce que l'on nous donne à adorer, c'est cet ego-là, pour se refléter dedans et pour que nous nous l'approprions. Voilà, ça c'est un des effets anthropologiques de ce qu'est devenu le football.
Donc vous n'êtes pas très optimiste sur la suite du football, enfin sur l'évolution du football.
Mais tout ce qui va mal rencontre un jour une limite. J'ai beaucoup lu Cornelius Castoriadis. Ah oui. Voilà. Et Cornelius Castoriadis expliquait, mais le capitalisme rencontrera un jour sa borne, qui sera sans doute la borne écologique, c'est-à-dire les limites de la Terre, et la financiarisation et médiatisation, à cette façon-là, du football rencontrera sa limite aussi, et les choses vont se reformer autrement à partir de là.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour aujourd'hui à Elias à Cotonou, à Olivier à Lomé, Rodi à Angoulême, Bonaz à Moroni, bonjour à Madame You Ibrahim à Dakar et à Franck à Yaoundé.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Afrique. Maintenant, Robert Edeker, l'Afrique où on a encore une certaine conception du football, avec de bonnes nouvelles en plus, dans la corne du continent, le réchauffement notable des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Une délégation gouvernementale érythréenne était en Éthiopie ces derniers jours, mercredi notamment, Jeanne Richard.
Après un accueil en grande pompe, mardi, la délégation érythréenne a passé la journée de mercredi à Hawassa, dans le centre du pays, pour visiter un parc industriel qui se veut modèle pour le développement économique de l'Éthiopie. Au cours de leur discours, le premier ministre éthiopien Ahmed Abiy, comme Yemane Gebreab, membre de la délégation et conseiller spécial du président érythréen, ont en effet évoqué les possibles bénéfices commerciaux et stratégiques que les deux pays pourraient tirer d'un rapprochement. En signe d'ouverture, Ahmed Abiy a également annoncé que la compagnie Ethiopian Airlines allait reprendre ses vols à destination de l'Érythrée pour la première fois depuis 20 ans. Et selon les médias locaux, il a également proposé de célébrer le nouvel an éthiopien en commun. « Nous avons ouvert la porte à la paix », a-t-il résumé. Restent les inquiétudes de la population, en particulier celles des Éthiopiens de la ville frontalière de Badme, qui devraient passer sous administration de l'ancien ennemi érythréen si l'accord de paix de 2002 est enfin respecté, comme l'a promis le premier ministre éthiopien Ahmed Abiy en signe d'apaisement.
Il faut également souligner un réchauffement des relations entre les deux Soudans. Optimisme aussi au Togo, où le dialogue inter-togolais a repris mercredi à Lomé, Peter Dogbe.
Trois choses à retenir à la fin de cette journée marathon de la reprise du dialogue inter-togolais. Le gouvernement devra poursuivre les mesures d'apaisement, notamment la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Toutes les villes, en l'occurrence, Bafilo, Sokode, Mango, jusque-là interdites de manifestation, pourront aussi en faire. L'actuel parlement, dont le mandat arrive à terme le 19 août prochain selon la Cour constitutionnelle, pourra également poursuivre ses travaux. Les préparatifs des élections à cette échéance restent suspendus selon le communiqué final, tout en sachant que ces élections devront se tenir avant la fin du mois de novembre 2018. C'est une étape importante, confie un membre de la coalition de l'opposition sceptique, qui ajoute qu'il faut attendre la mise en œuvre de toutes ces décisions pour aboutir à un environnement apaisé qui permette d'aborder les questions de fond. De toutes les manières, le processus de dialogue est sur les rails. Il se poursuivra par le biais des ministres et ambassadeurs des deux facilitateurs, en attendant que les autres points de discorde fassent l'objet de recommandations des chefs d'État lors du prochain sommet de la CEDEAO.
Suite d'une semaine en Afrique, et il nous faut revenir sur la tenue du premier forum sino-africain sur la défense et la sécurité qui se tient à Pékin jusqu'au 10 juillet prochain. Simon Le Plâtre.
Vendre des armes, former des militaires, financer les armées, la Chine ne s'en cache pas. Le forum sino-africain sur la défense et la sécurité, organisé par le ministère de la Défense chinois, a pour but de renforcer les liens militaires avec l'Afrique. Pendant 15 jours, les responsables chinois et africains de la défense vont échanger à Pékin autour de thèmes comme la sécurité régionale ou la coopération sino-africaine en matière de sécurité. Les responsables africains seront aussi invités à des démonstrations des armées chinoises. Un bon moyen de tisser des liens solides avec des militaires africains qui sont déjà régulièrement invités par la Chine à des formations techniques entièrement financées par Pékin. Un élément de plus dans une stratégie d'influence chinoise en Afrique qui passe à la fois par des investissements dans les infrastructures et de plus en plus par des liens militaires. En 2017, la Chine a inauguré sa première base militaire sur le continent africain à Djibouti. La Chine s'impose aussi comme un acteur important des ventes d'armes en Afrique, n'hésitant pas à offrir des armements en cadeau à des pays amis, démocratiques ou dictatoriaux.
Sept jours en Afrique.
Et pour terminer notre voyage africain, Robert Adecker, revenons à la Coupe du Monde avec l'élimination de justesse, mais élimination quand même de la Coupe du Monde du Nigeria après sa défaite mardi soir contre l'Argentine qui l'a emporté 2-1, et celle du Sénégal jeudi face à la Colombie. Fait notable, l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur du Sénégal avant de revenir sur sa décision. Daniel Valo en Russie.
Le match vient de se terminer, les supporters colombiens laissent éclater leur joie. À quelques mètres de là, c'est l'amertume et la déception des Sénégalais regroupés devant l'écran.
On peut considérer qu'on s'est fait éliminer par nous-mêmes. J'ai plus les mots. C'est la vie, hein. Peut-être qu'on n'est pas fait pour prendre une coupe, peut-être, je sais pas.
Les dieux du football n'étaient pas avec nous aujourd'hui, on félicite la Colombie. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de représentant africain au deuxième tour. C'est la loi du football.
Le Sénégal était le dernier espoir de l'Afrique durant ce mondial. Pour ce supporter sénégalais, c'est désormais la France qui devient l'équipe à soutenir dans la compétition.
Il n'y a que la France qui est là. Il n'y a que la France, il y a ces joueurs africains, les Paul Pogba.
Ah, vous allez soutenir la France du coup?
Ah, bien sûr, la situation oblige, on est obligé de supporter la France. Parce que là-bas, en France, il y a nos frères sénégalais qui vivent là-bas, les Maliens, il y a toutes sortes d'Africains qui sont là-bas. Donc il ne nous reste que la France. On croise les doigts pour les Français.
Alors il y a, Robert Radecker, ce constat accablant et triste. Il n'y a plus d'équipe africaine dans ce deuxième tour de la Coupe du Monde qui commence aujourd'hui. L'arbitrage, la vidéo qui a marqué cette Coupe du Monde, la VAR, hein, ce système de surveillance des matchs par la vidéo, elle déclenche une polémique infinie. Nous avons reçu énormément à RFI de coups de téléphone, de mails autour de cet arbitrage. Les arbitres détruisent notre passion, nous écrivent. Écrit à Guide, par exemple, ou Serge qui écrit lui « On peut toujours aimer le football, mais c'est le nouveau système d'arbitrage qui nous fait la honte. Il est facile de tricher les Africains et aussi facile que la FIFA défende ses hommes en jaune. » Le thème de cet arbitrage, comme souvent, mais accentué par la vidéo, scandalise les Africains.
Oui, très curieusement, l'arbitrage vidéo sert au contraire de ce qui était annoncé.
C'était censé faciliter la chose et faire en sorte que les choses soient transparentes.
Soient plus justes et transparentes, et c'est le contraire qui se passe, favorisant en même temps les desseins, je crois, parce que la FIFA c'est une bureaucratie, de la bureaucratie
puissante.
De la FIFA, puissante, qui a ses favoris. Ses favoris, c'est les équipes historiques, puissantes, voilà, c'est ça. Et
d'ailleurs, beaucoup de nos auditeurs africains disent carrément, est-ce que le football aujourd'hui est réservé aux Blancs? Alors, un auditeur nous a écrit ceci, hein, est-ce que le football est fait pour toutes les communautés ou uniquement réservé aux Blancs?
Ben, la FIFA, on dira les Européens, la FIFA a l'air de préférer que ce soit les Européens, parce qu'ils sont les plus riches probablement, qui gagnent. Mais il me semble que sur le fond, il y a deux remarques à faire. Voilà. D'un certain point de vue, à cause du centrage des grands clubs sur l'Europe et du pillage des jeunes joueurs africains par les clubs européens, les joueurs africains normalisent leur jeu en Europe et le jeu du coup des équipes nationales africaines perd un peu de sa spontanéité, se normalise. Je crois que ça, c'est l'une des causes. Et la deuxième remarque à faire, c'est quand même le Sénégal est éliminé par le nombre de cartons jaunes. Voilà, à la fin. Pas par un tirage au sort pile ou face, qui serait sans doute plus rationnel que le nombre de cartons jaunes, parce que pour que cette histoire de cartons jaunes fût rationnelle, il faudrait que ce soit tout le temps le même arbitre. Or, c'est laissé à l'appréciation d'arbitres différents. Et les arbitres sont plus sévères avec les équipes africaines, donnent plus facilement des cartons à des joueurs africains ou d'équipes moins cotées qu'à de très grands joueurs. Voilà. Donc cette histoire d'être éliminé au nombre de cartons, je crois que c'est une injustice en effet.
Alors Robert Adekar, l'émission s'achève. Il faut quand même dire un mot sur ce que vous écrivez à propos de l'admiration qui est toujours réelle chez les supporters de football. On admire tous plus ou moins des joueurs. C'est encore plus vrai pour les enfants qui n'a pas mis quand il était enfant le poster d'un joueur de football dans sa chambre. Il y a toujours cette admiration dont vous dites qu'elle est fondamentale. L'admiration est anthropogène, elle est le moteur du développement humain, écrivez-vous.
Oui, il n'y a
reprenant
pas.
Reprenant des travaux.
On ne peut pas devenir un homme sans admirer. Voilà. Descartes a dit que l'admiration était la première de toutes les passions humaines, la passion fondamentale. Et je crois que l'admiration est ce qui nourrit l'âme humaine. Alors beaucoup de, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui nous admirons. Oui. Beaucoup d'enfants et de jeunes admirent des joueurs de football. Je trouve que c'est très beau et en même temps fort dangereux également.
Mais pour vous, le football va réagir? On a l'impression que la FIFA n'est pas une institution révolutionnaire.
Non, c'est une institution corrompue, on le sait. Il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus. Mais d'autres institutions peut-être... Alors, c'est pas à l'intérieur de la FIFA que les choses peuvent se passer, mais d'autres institutions venant d'Afrique ou d'Amérique du Sud peuvent peut-être apparaître pour ébranler cette puissance planétaire de la FIFA.
Parce que le football du coin de la rue, le football du dimanche matin existe toujours.
Il existera toujours, celui-là.
Ouais. Le football amateur, le jeu, quoi.
Le jeu. Il n'y a rien de plus universel et de plus simple que deux jambes, 20 gamins et un ballon. Les règles sont très simples. Ou même un morceau de chiffon dans une rue.
On disait la semaine dernière, des auditeurs nous expliquaient qu'ils avaient joué au football avec des pamplemousses ou des oranges.
Voilà, c'est ça, dans une rue en Colombie. Ah, mais tiens, on peut espérer que la Colombie aille très très loin dans cette coupe.
Bon, toujours aussi pessimiste en ce qui concerne la France.
Les faits tout à l'heure vont peut-être démentir ce pessimisme, mais il faut être lucide.
Merci Robert Adekar. Je conseille vivement votre livre « Peut-on encore aimer le football ?» qui n'est pas un réquisitoire. Hein. Vous êtes encore une fois un amateur de football et vous regrettez l'évolution du football aujourd'hui. Ce livre est publié aux éditions du Rocher. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Ravensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées que nous consacrerons à Machiavel, le penseur qui a créé en quelque sorte la science politique. Demain dimanche à 17h10, heure de Paris, et sur le site www.rfi.fr si vous êtes en Afrique, car ce dimanche ce sera football sur l'antenne Afrique. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.